l'intervention de Christophe Pomian le 10 décembre à 18h30. C'est sur le site, merci, sur le site Curiositas, ce sera sur le site du musée, assurément, la petite brochure du musée, là. Je vois que certains l'ont dans la main. Bon, pour ceux qui sont près de 20 ou qui souhaitent revenir, eh bien le mardi 10 décembre, je crois que c'est un mardi, oui, Christophe Pomian qui va venir faire une conférence sur le travail qu'il est en train d'achever sur l'histoire des musées en Europe. À mon sens, ça sera très passionnant. Donc 18h30 le 10 décembre. En plus, c'est un grand bonhomme, voilà, je vais pas permettre de le dire. Le 21 janvier, une bonne fois invité Michel Pastoureau venir parler de la licorne, puisqu'il a sorti un livre récemment sur les secrets de la licorne, je crois que c'est le titre. Donc il viendra en parler dans le cadre de l'exposition. Et puis le 30 janvier, c'est tout à fait autre chose, mais c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on a voulu faire. Le 30 janvier, jeudi 30 janvier, il y a une lecture de l'Oulipo. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui est fondé par Queneau, entre autres choses, avec Pérec, etc. Et on a invité l'Oulipo. Ils font des lectures tous les mois à la Bibliothèque nationale de France. Et bien, le 30 janvier, ils feront une lecture à l'auditorium du musée Sainte-Croix, de l'autre côté de la rue, sur la thématique cabinet de curiosité. Ils ont écrit des textes. Ils seront cinq, peut-être six Oulipiens. Venir lire leurs textes, ce sont toujours des moments très savoureux. C'est donc le 30 janvier à 18h, sauf erreur de ma part. Et là, je pense qu'il y aura du monde. Donc, si vous êtes intéressé, venez un peu tôt. Et puis enfin, normalement, il devrait y avoir une journée d'études le 11 mars, un peu pour clore ces 4-5 mois de travail là-dessus. Une journée d'études assez informelle, un petit peu comme aujourd'hui, peut-être même plus ouverte encore, autour de la question de cabinet de curiosité et art contemporain. Pourquoi? Les cabinets de curiosité sont. Non, bon, ils sont devenus à la mode. Il y a même des restaurants, bien, vous avez trouvé ça, qui s'appelle cabinet de curiosité. Bon. Mais au-delà de ça, bon, vous savez bien que la redécouverte des cabinets de curiosité date du début du XXe siècle. J'ai lu sur le Chausseur, par exemple. Mais au fond, du côté de l'histoire de l'art et des pratiques des artistes et des plasticiens, c'est devenu, je crois, une réalité depuis quelques décennies. Et voilà, on souhaitait qu'il y ait une journée où on puisse dialoguer autour de cette question, qui n'est pas une question simple, mais qui est une question intéressante, je crois. Donc, ce sera le 11 mars. Le programme n'est pas encore arrêté, mais ce sera un peu sur le format d'aujourd'hui, une journée d'études sur cette question-là. Voilà. J'ai le plaisir d'accueillir donc Rossella Baldi de l'Université de Neuchâtel. Donc là, on est vraiment au XVIIIe siècle. On va continuer dans le XVIIIe siècle avec les deux dernières interventions. De jeunes collègues qui sont comment dire, en travail, qui sont au milieu des recherches, c'est très bien. J'aime bien qu'on ait des statuts différents et des regards différents. Et donc, Rossella va nous parler du voyage en Suisse de Martinus von Marum. Je ne connais pas du tout. Si j'en ai l'étude, c'est l'occasion pour nous aussi de découvrir plein de choses. À vous.
Merci. Alors, j'ai quelque peu modifié le titre de ma contribution, comme vous pouvez le voir. Je ne vous explique pas pourquoi, de toute manière, ça sera très clair en m'écoutant. Donc, le texte que je me propose de vous présenter aujourd'hui est le récit d'un voyage en Suisse, resté sous forme manuscrite et conservé à Harlem, que le directeur du musée Theiler d'Harlem, Martinus van Marum, composa au cours des 4 mois qu'il passa en arpentant une partie de l'Allemagne, mais surtout la Suisse, entre la fin du mois de mai 1802 et la fin du mois de septembre de la même année. Voilà. Et ici, vous avez en fait un portrait, un des deux portraits qu'on connaît de Van Marum, qui sont en fait les seules images qu'on a de lui. Donc, ce n'est pas une image qui correspond à l'époque du voyage, je m'excuse, mais vous aurez au moins une idée du personnage à qui on a affaire. Le but du voyage, comme on le verra dans un moment, était celui d'obtenir, par l'achat ou par l'échange, des pétrifications et des minéraux qui complètent les collections dont Van Marum avait la charge. De nos jours, on appellerait en fait l'attitude de Van Marum en Suisse, vous le verrez tout à l'heure, celle d'un acheteur compulsif, car il ramena à Harlem une quantité incroyable de matériel. Son récit de voyage relate donc une très longue série de visites à des cabinets ou à des marchands de curiosités naturelles, dont j'essaierai de mettre en évidence quelques aspects. En analysant les descriptions des visites de Van Marum, il ne faut pas oublier que ce même récit constitue également le compte-rendu d'une pratique devenue à la mode depuis la moitié du XVIIIe siècle, celle notamment du voyage en Suisse. Les deux œuvres que vous voyez ici vous rappellent deux des moments topiques du voyage en Suisse à la fin des Lumières, que je vous montre pour leur côté pittoresque et parce que Van Marum s'y plia aussi. D'une part, vous avez donc le pont du diable, qui constituait une étape obligée sur la route du Saint-Gothard. Et d'autre part, vous avez l'île de Saint-Pierre sur lac de Bienne, lieu phare du culte rousseauiste. Car pour ceux d'entre vous qui ne sont pas rousseauistes, l'île de Saint-Pierre est l'île où Rousseau s'est réfugié pendant quelques mois après avoir été chassé de Moitié, le petit village près de Neuchâtel. Et pendant tout le 19e siècle, aussi déjà à la fin du 18e siècle, on allait retrouver le lieu où il avait dormi et on embrassait le rideau qui était encore dans la maison sur l'île de Saint-Pierre. Or, les causes de l'engouement des voyageurs des Lumières pour la Suisse sont multiples et nécessiteraient d'un trop long développement qui nous éloignerait de Van Marum et de son parcours. Parmi ces causes, qui vont de Voltaire et Rousseau au mythe de la démocratie en passant par une vision bucolique des communautés pastorales suisses, je me permets de vous en rappeler une en particulier qui joue un rôle important dans le voyage de Van Marum et dans sa volonté de mener une campagne d'achat en Suisse et pas ailleurs. Cette cause est la redécouverte esthétique et scientifique des Alpes qui s'effectue en plusieurs étapes tout au long du XVIIIe siècle. Une redécouverte au sein de laquelle la richesse du matériel géologique local récolté dans les cabinets des savants et des amateurs helvétiques tenait une place primordiale. De nombreux savants helvétiques, à commencer par le Zurichois Johann Jakob Scheuchzer et le Lucernois Karl Nikolaus Lang, avaient souligné l'importance de l'étude des productions géologiques locales et avaient prêché une pratique de la collection qui en tienne compte. Leurs leçons auraient donné lieu à une tradition passant par Louis Bourguet, Élie Bertrand, Horace Bénédicte de Saussure et les frères de Luc. Et juste une petite remarque en termes de religion, tous ces gens étaient des protestants et ils ont défendu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle une pratique très locale de la collection de pétrification contre l'esthétique de la merveille. Fin de remarque. La renommée acquise par les collections de pétrification helvétique au cours d'un siècle qui, selon les mots de Voltaire, avait fait de la collection d'histoire naturelle une de ses plus grandes marottes, se reflète dans la naissance d'une littérature viatique spécialisée qui se développe dans les années 1770. Ce type de production à imprimer se compose essentiellement de guides et de récits qui présentent la Suisse comme une sorte de paradis de la collection d'histoire naturelle et vise en parallèle à fournir des indications précises à tout érudit et amateur souhaitant visiter des cabinets, récolter ou obtenir des spécimens pour sa propre collection. Les Briefe aus der Schweiz de l'apothicaire allemand Gerhard Reinhard André étaient la référence incontournable en la matière et l'outil indispensable de tout voyageur des Lumières intéressé par les cabinets. Elle fut reprise par Johann Bernoulli dans ses lettres sur différents sujets et complétée au courant des années 1780 par l'ouvrage apodémique de Henri-Robert Besson et de Jacob Samuel Wittenbach, le manuel pour les savants et les curieux qui voyagent en Suisse. Le journal de Van Marum, qui s'inspire de cette lignée, représente au fond une forme d'exacerbation de cette glorification du patrimoine géologique suisse et reste une source intéressante qui fait l'état de la pratique de la collection de pétrification en Suisse à la toute fin du XVIIIe siècle, en nous montrant en même temps l'héritage du siècle des Lumières sur cette même pratique. Au moment de son départ, au mois de mai 1802, Van Marum occupait la double fonction de directeur du musée Taylor de Haarlem et de responsable du cabinet de curiosité naturelle de la Société néerlandaise des sciences de la même ville. Il pouvait donc vanter une importante carrière de conservateur, si vous me permettez ce mot, de collection d'histoire naturelle pour des institutions. Si la charge du cabinet de la Société néerlandaise des sciences lui avait été conférée en 1777, une année après son installation à Haarlem, le poste de directeur du musée Taylor lui avait été attribué dès la création de l'institution en 1784, création dans laquelle, par ailleurs, il s'était investi avec ferveur avec son ami Jacobus Barnhart. Le musée avait vu le jour à la suite du legs du riche banquier et fabricant de textiles arléanois Peter Taylor van der Hulst, j'espère qu'on dit ça comme ça, qui, mort en 1778 sans descendance, avait laissé son hôtel particulier, ses collections personnelles et la quasi-totalité de sa vaste fortune, l'équivalent de 80 millions d'euros d'aujourd'hui, à une fondation placée sous la direction de cinq amis, la fondation Taylor notamment. Le banquier souhaitait de la sorte voir se constituer deux sociétés savantes, l'une vouée à la promotion de la religion et l'autre à la promotion des arts et des sciences, le tout dans un esprit de bien public et de charité. Dans ce but, le banquier mettait à disposition des membres des deux sociétés sa maison particulière, sa bibliothèque personnelle et ses collections, composées d'instruments scientifiques, de fossiles et minéraux, de médailles, d'estampes, de dessins et de livres. Et le portrait que vous voyez ici, en fait, montre justement Peter Taylor entouré de grands cahiers, qui sont les cahiers des dessins et des estampes qu'il avait collectionnés. Et de nos jours, ce sont ces cahiers-là qui font la renommée du musée Taylor, car dans ces cahiers, il y a des dessins de Léonard, de Claude Lorrain. Le testament de Taylor ne mentionnait pas explicitement la possibilité de la création d'un musée. À ce début, la fondation Taylor se contenta de dispenser des cours publics d'histoire naturelle et d'histoire de l'art. Mais avec l'arrivée de Van Marum au sein de la société consacrée aux arts et aux sciences en 1779, qui avait entre-temps établi sa réputation d'érudit en ville grâce à sa participation aux activités de la Société néerlandaise des sciences, il fut décidé de construire un espace d'exposition et de conservation des collections qui facilite leur mise à disposition du public. On commissionna donc à l'architecte Lendert Wirwant une salle des livres et des arts. La salle, qui est aujourd'hui connue sous le nom de salle ovale, fut conçue par Wirwant en style néoclassique et bâtie derrière l'hôtel particulier de Taylor. Voilà, là, vous en avez une vue depuis le haut et une autre qui vous montre, en fait. Voilà. Inaugurée en 1784, elle constituait le premier musée public néerlandais. Dans la salle étaient réunis les instruments de physique, parmi lesquels la célèbre machine électrostatique de Van Marum, les collections de fossiles et de minéraux utilisés pour les cours d'histoire naturelle et les récoltes de dessins et de gravures. À l'étage supérieur, qui servait pour des observations astronomiques, était placée la bibliothèque. Or, donc, la machine électrostatique de Van Marum avait été créée dans les années 1780, et c'était par cette machine que Van Marum s'était fait connaître en Europe. Et sa spécificité était qu'elle est actionnée par deux manivelles, que vous voyez d'ailleurs sur l'œuvre en question, qui permettaient d'obtenir des étincelles jusqu'à 60 cm. Et donc voilà, qui faisait de cette machine une sorte de merveille, évidemment, pour l'époque. Et juste encore une petite remarque pour les dessins, puisqu'on a vu tout à l'heure ces gros volumes derrière Peter Taylor, ils étaient en fait conservés sous les cages, en fait les cases avec les fossiles et les minéraux. Ce sont donc les petites portes que vous voyez en bas. En assumant la tâche de directeur du musée, qui lui avait été confiée en raison de son expérience en tant que conservateur du cabinet d'histoire naturelle de la Société néerlandaise des sciences et de ses recherches dans le domaine de l'électricité, Martinus van Marum se voyait confier la responsabilité des instruments de physique et des collections minéralogiques ainsi que de la bibliothèque, donc pas des dessins. Un règlement ou sorte de cahier des charges rédigé par les membres de la Fondation Taylor à l'ouverture du musée stipulait clairement que le directeur devait œuvrer afin d'augmenter la splendeur des collections en les enrichissant par, je cite, « tout ce qui devrait être, mais n'est pas dans le musée ». Il avait donc le droit et le devoir de se rendre à des ventes aux enchères publiques, pourvu que la somme de ses dépenses reste raisonnable. Il était invité à développer son réseau savant international, à travers lequel faire connaître le musée Taylor en dehors du territoire néerlandais. En ce qui concernait de manière plus spécifique les pétrifications, le directeur allait veiller à ce qu'elles soient exposées dans le respect des méthodes de classification généralement reconnues par la communauté savante. Et donc, la première méthode de classification qui était choisie en 1784 était celle de Valerius, l'élève de Linné, qui avait appliqué la méthode de Linné aux pétrifications. Et au tout début du 19e siècle, Van Marum va plutôt opter par la méthode de Werner. Par le voyage qu'en ce mois de mai 1802, il s'apprêtait à accomplir en Allemagne et en Suisse, Van Marum allait donc honorer, une fois de plus, le règlement du musée. Le but déclaré de son voyage était celui de visiter le plus grand nombre possible de cabinets afin d'acheter ou d'échanger des spécimens qui complètent la collection géologique. Son départ se présentait comme une véritable campagne d'achat pour la réalisation de laquelle Van Marum était muni d'une très conséquente somme d'argent fournie par la fondation Taylor. Depuis son entrée en fonction, Van Marum avait par ailleurs déjà mené de telles campagnes à l'étranger, bien que détendu mineur. En 1785, il avait séjourné à Paris. En 1786 et 98, il avait parcouru l'Allemagne. Et en 1790, il avait visité Londres. Ce qui caractérisait pourtant le voyage de 1802, qui allait être le plus long de la carrière de Van Marum, était sa focalisation sur les achats de fossiles et de minéraux. Auparavant, Van Marum avait plutôt concentré ses recherches sur la physique et la chimie, comme la machine du musée Taylor le montre très bien, grâce auquel il était devenu membre de l'Académie royale de sciences de Londres en 1798. Ce n'était qu'à partir de cette même année qu'il avait pris de l'intérêt pour le domaine de la géologie, ce qui ne l'avait cependant pas empêché d'acquérir en 1782 déjà, encore avant l'ouverture officielle du musée, une importante quantité de minéraux provenant du célèbre cabinet d'histoire naturelle du marchand amstelodamois Willem Vardenmeulen. À cette collection, il aurait rajouté les pièces de l'ensemble de Petersberg et beaucoup de cristaux obtenus par échange ou par achat au cours de ses séjours allemands. Le voyage en Suisse de Van Marum participait donc de sa découverte du domaine de la géologie, mais marque aussi paradoxalement la fin de son intérêt pour ce même champ de l'histoire naturelle, sans que cela soit dû pourtant à des causes scientifiques. De retour à Haarlem à la fin du mois de septembre 1802, Van Marum se fit accuser par Adrian van Zerberg, un des membres de la fondation Taylor, d'avoir dépensé trop d'argent et d'avoir oublié que le musée Taylor ne cherchait pas à ressembler à une collection aristocratique. En effet, la table avec le résumé des dépenses effectuées pour l'achat de matériel pour le musée que Van Marum avait rajouté à son journal montre que le voyage avait coûté 5844 louis d'or. Pour justifier sa Febris Collectionum, Van Marum répliqua que la somme n'était que la moitié de ce que le musée lui avait mis à disposition et, fâché, il décida de laisser tomber les études minéralogiques pour se consacrer à la botanique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Van Marum quitta Haarlem à la fin du mois de mai 1802, et plus précisément le 23 mai. Pendant les trois premières semaines du voyage, il traversa l'Allemagne en s'arrêtant à Düsseldorf, Köln, Bonn, Mainz, Mannheim, Heidelberg et Stuttgart. Pendant ce temps, il chercha à réactiver le réseau qu'il avait mis sur place à l'occasion de ses deux premiers séjours allemands, dans l'espoir, quelque peu déçu, que des nouveautés intéressantes aient apparu sur le marché ou dans les collections qu'il connaissait déjà. À la différence de la Suisse, le passage par l'Allemagne permit au directeur du musée Taylor de voir, sous l'égide de leurs responsables respectifs, les cabinets aristocratiques d'histoire naturelle des électeurs palatins, notamment à Mannheim, Heidelberg et Darmstadt. Leur visite servit à Van Marum pour se forger un catalogue mental de la collection idéale de base et définir sa propre notion de nouveauté. Toute pièce nouvelle à ses yeux étant constituée par des spécimens qu'il n'avait pas eu l'occasion de voir dans un de ses importants cabinets allemands, qui lui fournissait donc, en quelque sorte, le modèle de collection institutionnalisée auquel le musée Taylor devait aspirer. Le 15 juin 1802, Van Marum arriva enfin à Schaffhouse, où il fut accueilli par le médecin et naturaliste Johann Conrad Ammann, qui joua pour le néerlandais le rôle de cicerone éclairé, en l'introduisant non seulement auprès des collectionneurs de la ville, mais le suivant aussi pendant quelques excursions autour de la ville que Van Marum réalisa en quête de fossiles. Alors ici, je vous ai mis en fait l'itinéraire que Van Marum a choisi en 1802. Or, une chose qu'on remarque tout de suite quand on connaît le voyage en Suisse et la mode des cabinets, c'est que dans cet itinéraire, il manque une ville fondamentale qui est celle de Bâle, en fait. On ne sait pas pourquoi Van Marum a décidé d'arriver par Schaffhouse. Bâle n'était pas très loin, hein. Vous voyez, elle est sur la gauche. Mais il décide de descendre directement à Zurich. Et les mots des villes que j'ai mis en majuscule, en fait, ce sont les villes où il s'est arrêté plus longtemps et les villes où il a donné, il a lâché sa manie de collectionneur et il a dépensé le plus d'argent. Dans toutes les villes suisses où Van Marum s'arrêta par la suite, hein, parfois même pendant plusieurs semaines, il chercha à recourir à un érudit local ou étranger qui lui facilite l'accès à la sociabilité urbaine de la collection d'histoire naturelle. À ce propos, il put compter sur l'appui du commerçant et naturaliste Hans Conrad Escher à Zurich et sur celui du collectionneur et géologue Jacob Samuel von Wittenbach à Berne. À Neuchâtel, il fit la connaissance de l'allemand Leopold von Buch, qui, en palliant l'absence de naturalistes locaux, l'accompagna au courant de nombreuses excursions dans le Jura. Ces figures tutélaires perfectionnaient la connaissance livresque du substrat de la collection helvétique que Van Marum avait acquise avant son départ, en le mettant en quelque sorte à jour, car évidemment, les propriétaires des cabinets de pétrification dont il était question dans les ouvrages d'André ou de Bernoulli avaient entre-temps disparu, et leur collection avec eux. À ce propos, il est intéressant de remarquer que Van Marum avait préféré se procurer des guides plus récents, comme l'itinéraire du Pays de Vaud d'Henri Struve ou encore l'itinéraire du Saint-Gothard de Christian Michel, en déléguant à ses divers ciceroni en chair et os la tâche de le renseigner sur la pratique locale de la collection. Par leur intermédiaire, Van Marum assouvit facilement sa soif de spécimens. Toutes sortes de cabinets de pétrification, d'amateurs ou de savants inconnus ou célèbres, l'intéressaient comme potentiellement porteur de l'espoir d'un achat valable. Les noms de Haller, Lavater, Schoisser, Zusteri, Nagel, Retzer, Sprungli et plein d'autres encore défilent alors sur la page, ainsi que les tentatives, pas toujours abouties, de récupérer une part plus ou moins conséquente de leur collection. Le seul critère de distinction restait, pour Van Marum, le règne minéral auquel devaient appartenir les spécimens exposés. Au final, le directeur du musée Taylor reviendra donc avec toutes sortes d'objets, cristaux, ammonites, poissons et feuilles fossilisées, topazes, quartz, minéraux, mais dont malheureusement il nous a donné que des listes qui ne sont pas exhaustives, donc je ne peux pas vous dire chez qui exactement il a acheté quoi. Il a acheté en vrac, on verra, il y a une pièce dont on sait que ça vient de là, mais voilà, on sait juste combien ça lui a coûté et on ne peut pas aller au-delà de ça. Les critères si larges adoptés dans l'établissement du programme de visite de Van Marum, capable de voir 3 cabinets par jour comme à Zurich, font en sorte que son journal regorge de descriptions que, pour des raisons de temps, il serait difficile de vous énumérer et de vous analyser. Pour cette raison, je trouve plus intéressant de nous arrêter un moment sur le protocole descriptif adopté par Van Marum, qui ne varie pas en fonction de la taille ni de la célébrité du cabinet de fossiles qu'il voit. Après chaque visite, le directeur du musée Taylor se contente en effet de commenter de manière générale l'état de conservation des pièces, l'état d'ordre qui règne dans la collection, et parfois il indique méthode de classification il y a et comment les objets sont rangés. Si ces observations reflètent donc, synthétiquement, les grands débats de la deuxième moitié du siècle autour des dispositifs d'exposition du cabinet d'histoire naturelle, elles ne sont jamais pourtant élargies à des indications concernant, par exemple, la taille des locaux ni l'ameublement. Dans de nombreux cas, Van Marum ne daigne même pas esquisser le contenu général de la collection, surtout si cette dernière est composée d'objets du règne végétal ou du règne animal. Le protocole descriptif de ces visites se structure ainsi de façon à reproduire sur la page l'effet d'un coup d'œil qui résume de son point de vue l'essence et l'intérêt de la collection. Van Marum ne note que quelques objets du cabinet en question, sur la base desquels il va se souvenir de sa visite et créer, soi-disant, un microcosme du microcosme qui est déjà le cabinet. Les critères par lesquels le néerlandais effectue ce processus de réduction sont ceux très subjectifs de la nouveauté et du remarquable, voire de l'exceptionnel. Il ne relate que les pièces qui lui paraissent nouvelles ou remarquables. Donc. Mais cette esthétique de la nouveauté et du remarquable se façonne autour de son souvenir des collections aristocratiques, allemandes, mais surtout autour de la collection du musée Theiler. Les pièces nouvelles et remarquables que Van Marum relate sont en effet les objets qu'il souhaiterait acheter pour le musée ou qu'il a effectivement achetés. Son souvenir d'une collection particulière ne se construit qu'en fonction d'un catalogue idéal du musée Theiler représenté par le journal. Les collections dont il rend compte n'existent sur la page que par ce jeu de renvoi. Il n'est pas question de rendre compte du hic et donc de la visite, mais de constituer un ensemble rêvé dont le journal devient le garant. Bien entendu, de premier abord, cela paraît réduire la valeur documentaire du manuscrit de Van Marum. Je dis de premier abord, car l'esthétique du remarquable se décline chez lui aussi par la valeur historique qu'il accorde à des objets ayant appartenu à des ensembles de collectionneurs prestigieux décédés. Tout au long de son séjour, Van Marum ne manqua pas de chercher à visiter des cabinets qui n'étaient plus cités par la littérature contemporaine. À ce propos, l'acharnement par lequel il essaya à tout prix, lors de son passage dans le Jura et le pays de Vaud, de voir les cabinets d'Abraham Gagnebin à la Ferrière et d'Élie Bertrand et Verdun-les-Bains, est particulièrement parlant. Abraham Gagnebin, botaniste célèbre pour sa collaboration avec Albrecht von Haller et pour avoir enseigné la botanique à Rousseau, avait réuni une immense collection de curiosités sur le modèle de la chambre de merveille au fin fond du Jura et était décédé en 1800. Élie Bertrand, qui de Albrecht von Haller avait été un ami intime, était décédé en 1797, après s'être rendu célèbre par une série de traités minéralogiques où il enseignait l'art de la collection méthodique. Sa renommée lui avait valu par ailleurs les invitations du roi de Danemark et du roi de Pologne à devenir responsable de leurs collections respectives d'histoire naturelle. À sa plus grande déception, Van Marum n'arriva pas à se procurer des spécimens de leur cabinet. À la Ferrière, il dut se confronter à des héritiers qui réclamaient trop d'argent. Et Verdun-les-Bains, il ne trouva personne capable de lui dire que le cabinet de Bertrand avait été déposé depuis sa mort à la bibliothèque de la ville et qu'une partie de ce même cabinet était à Mannheim et que donc il en avait déjà vu les pièces. Van Marum réussit pourtant à ramener au musée Theiler un bout d'histoire de la pratique de la collection suisse et pas n'importe lequel. À Zurich, il avait en effet acheté, pour le prix de 14 louis d'or, l'homme au diluvi testis de la collection de Scheuser. Or, je ne sais pas si vous connaissez cette pièce qui est restée célèbre. Or, Scheuser, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, était un grand défenseur des théories des déluges, qu'il a en fait divulguées en Suisse, car il était un des grands correspondants de Woodward. Et tout au long de... évidemment, sa vie, il a édité plusieurs livres qui allaient dans ce sens. Sa collection, notamment, a été gravée et éditée sous le nom de Herbarium Diluvianum et Museum Diluvianum. Et ici, donc, vous avez la pièce qui se trouve à Harlem encore actuellement et la planche que Scheuser avait publiée dans sa Lithographia Helvetica en 1726. Peut sembler importer à Van Marum du paradoxe inscrit dans cette pièce, de valeur inestimable certes, parce qu'ayant appartenu à Scheuser, mais représentative des théories du déluge que la deuxième moitié du XVIIIe siècle avait cru nécessaire remettre en question. Lui, qui avait été, dans les descriptions de son journal, si attentif aux questions d'ordre et de méthode, ne paraissait pas du tout accepter que les modes de la connaissance inscrits dans les cabinets avaient changé et ne paraissait pas être conscient que sa quête de nouveautés et de pièces remarquables s'apparentait à une esthétique de la merveille que les Lumières s'étaient donné la peine de proscrire. De passage à Harlem en 1812, Cuvier remarqua tout de même que l'homme du déluge de Scheuser était fort probablement un reptile. En effet, il s'agit d'une salamandre. Mais cela n'avait plus d'importance pour Van Marum. Au-delà de tout débat, La pièce de Schoester, conservée à Harlem, nous dit encore la fascination exercée sur lui et par les voyageurs des Lumières, par les cabinets de curiosité naturelle helvétique au XVIIIe siècle. Merci.
Je propose peut-être qu'on écoute Séverine tout de suite, puis on posera des questions après pour terminer. Je pense que l'approche de Séverine sera différente, mais au fond, Casanova et la Suisse, on va y arriver. Oui, je sais. Merci en tout cas pour celle-là.
J'aurai le temps d'en parler, mais l'image qui va avec. Merci.
Juste un mot d'introduction, Séverine Deniel, donc. Les attaches poids de vide, mais nonobstant, elle a préféré aller à travailler à Paris, on ne sait pas pourquoi. Bref, allez, je suis passé par Nanterre, alors ça va. Bon. Elle nous vient de l'université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense. Nous a fait une proposition d'autre Casanova, alors à la fois j'étais un peu interloqué parce que je me suis dit, est-ce que ça s'agit vraiment de cabine de curiosité ? Et puis ma curiosité est dans ce qu'elle est. Et puis sérieusement, on en a reparlé. Voilà, elle va nous parler de Casanova, mais pas seulement. Trois regards critiques sur les cabinets de curiosité au temps des Lumières, le président de Brosse, Casanova et Montesquieu. C'était très alléchant, alors voilà. On est tout oui. Merci.
Écoutez, merci. Donc oui, j'ai changé un petit peu ce que j'avais prévu initialement, même si ça ne paraît pas sur le programme, parce que je ne parlerai pas uniquement que de Casanova, mais de autres auteurs importants. Donc en fait, mon propos va consister en illustrant une thèse assez contradictoire, celle du siècle des Lumières comme un siècle de contraste. En effet, un critique qui s'appelle Roland Mortier avait écrit un livre dans les années 60 en disant « Clarté et ombre du siècle des Lumières », et ça me paraît tout à fait correspondre à cette période qu'on illustre souvent par des termes d'uniforme. Par des mots plutôt uniformes, notamment par rapport à la notion de progrès scientifique, etc. Et de manière un peu provocatrice ou contradictoire, je voudrais illustrer ici trois textes. Je voudrais mettre en avant ici trois textes qui montrent des contrastes et des ambiguïtés par rapport à la notion de cabinet de curiosité. C'était un petit peu un propos introductoire. Et je vais commencer plutôt dans le bref du sujet. Donc, Christophe Pomian a défini la culture de la curiosité selon deux critères, le désir de savoir, c'est-à-dire d'entretenir un rapport privilégié avec le tout, mais aussi que les objets mêmes qu'on vise rendent l'appréhension d'une totalité possible. Et il me semble que cette culture de la curiosité persiste au XVIIIe siècle, même si, on l'a évoqué à plusieurs reprises, elle se réoriente, elle se déplace, etc. Je vais en parler un peu plus précisément. Par exemple, la création de la Royal Society de Londres illustre une double ambition. Il faut former un inventaire de la nature qui inclurait non seulement les choses étranges et rares, mais aussi les plus connues et les plus communes. Il y a d'autres institutions comme le Jardin du Roi à Paris avec Daubenton, etc. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que ce processus ne s'est pas fait. Enfin, c'est pas moi qui le dis, mais par exemple Antoine Schnapper ou d'autres auteurs. Simplement, je m'en fais l'écho, tout simplement. Ce processus ne s'est pas fait sans difficulté, et on n'est évidemment pas passé d'une obscurité superstitieuse à des lumières scientifiques. Alors, par exemple, je citerai juste, pour finir mon introduction, le cabinet de Bonnier de la Mausson, j'imagine que vous connaissez, par exemple, où les antiquités ont disparu, mais dont le triple cabinet d'histoire naturelle, outre les six autres consacrés à l'anatomie, la chimie, la pharmacie, les drogues, la physique ou le cabinet des machines, ainsi que les outils, abrite un véritable musée du cabinet de curiosité où reposent la plupart des objets typiques, caméléons, amphisbènes, rémora, salamandre, pied d'élan, etc. On trouve aussi dans sa collection des pièces d'artillerie, des objets ethnographiques dispersés parmi les curiosités naturelles typiques des cabinets de curiosité du XVIIe. Donc, nous le voyons encore ici, on ne sommes pas passés d'un monde de ténèbres rempli d'archaïsme à un monde éclairé. Et justement, l'admiration portée aux automates, hein, au XVIIIe siècle, par exemple le canard de Vaucanson, qui est très connu, n'empêchait pas la vénération pour l'Antiquité ou n'empêchait pas non plus des pratiques de superstition. Hein, c'est ce qu'on va voir avec, avec Casanova, notamment. Donc voilà, j'ai choisi trois textes qui illustreraient, à mon opinion, des tensions entre ces deux pôles que je viens de, dégager, crédulité versus scepticisme, superstition versus science, hein, antiquaire, amateur versus philosophe, disons connaisseur, hein, selon Diderot, on va le voir, en prenant appui à chaque fois sur un passage précis que je vous ai distribué. Donc, je voudrais commencer par Charles de Brosse. Pourquoi ? J'ai pas suivi effectivement d'ordre chronologique, mais un ordre thématique, afin d'épouser une progression marquée à la fois par une prise de distance vis-à-vis de la superstition et par ce qu'il me semble être un déplacement de la merveille. Alors rapidement, avant de parler du texte de Charles de Brosse et de vous le lire, il va visiter en fait le cabinet du chanoine Setala. On a un peu parlé, et notamment j'ai vu dans l'exposition qu'il y avait une petite fiche sur lui. Donc je vais pas, je sais que tout le monde connaît quand même plus ou moins ce chanoine, donc je vais pas m'apesantir, sinon ça sera un peu long. Mais je voudrais simplement dire deux mots sur ce personnage quand même. Donc il est né en 1600 et il est mort en 1680. Et je vais me servir du voyage de Jérôme de Lalande en Italie, hein, qu'il a édité dans les années 1760, pour présenter ce personnage rapidement. Donc, le cabinet au muséum de Setala, dont la description est imprimée, a été réuni pour la plus grande partie à la bibliothèque ambrosienne vers 1730. L'auteur de cette collection, hein, Manfredo Setala, dont on a parlé aussi ce matin dans la conférence sur... était un Milanais très célèbre par son érudition et par ses connaissances en mathématiques, en histoire naturelle. C'est le premier qui ait fait en Europe un cabinet ou une collection considérable d'histoire naturelle, d'antiquités, de machines, de curiosités, de physique. Il en est parlé à la fin du second tome de l'Atuada. La description en fut donnée en 1664 par Terzaghi en latin et en italien par Scarabelli en 1666. On y voit, entre autres, une boule de cristal dans laquelle on aperçoit une goutte d'eau, des coraux et autres madrépores, des coquillages, un miroir concave de métal, des ouvrages légers en ivoire faits autour, chef-d'œuvre de l'art. Alors, voyons à présent comment son cabinet est décrit par Charles de Brosse, hein, donc un petit peu plus en avant dans le siècle, en 1749, dans ses lettres d'Italie. Alors, je ferai un bref rappel sur Charles de Brosse, peut-être il n'est pas tout à fait connu par tout le monde. Donc, en 1739, hein, il est âgé de 30 ans, il est conseiller au Parlement de Bourgogne et il part avec un groupe de gentilshommes à la découverte de l'Italie. Donc c'est vraiment le grand tour européen. Pendant une année, on a parlé justement des étudiants ce matin, c'est exactement le même état d'esprit, hein, même si ce n'est pas la même époque évidemment. Donc il adresse à ses amis et parents de Dijon des lettres si appréciées qu'on en fit des copies. C'est ça un petit peu qui marque son texte. À son retour, le futur président travaille à partir de sa correspondance afin de remanier ses lettres qui furent éditées pour la première fois en 1799. Donc ça a eu un tel succès au-delà de son cercle intime que ça a été publié, et même encore maintenant, c'est un texte vraiment important du XVIIIe. Alors, dans cette lettre que je vais vous lire et que vous avez normalement sous les yeux, Charles de Brosse s'adresse au président Bouillet, qui tenait dans son hôtel de la rue Saint-Fiacre à Dijon une société littéraire très fermée qu'on appelle l'Académie de Dijon. Alors, faute d'avoir su que le cabinet du comte Mezzabarba, si riche en médailles antiques, avait été transporté de Milan à Pavie, nous avons séjourné assez inutilement dans cette ville, sans y voir ce qu'il y avait de plus curieux. Quant au cabinet de Setala, si célébré dans toutes les relations de Milan, il a le sort de tous les cabinets qui est de dépérir peu à peu. Les héritiers du chanoine Setala ont vendu ou donné une partie des raretés qui le composaient. On peut pourtant s'amuser encore de quelques bonnes choses qui restent dans les 8 ou 10 salles qui composent le cabinet et qui sont remplies de beaucoup de chiffonneries. Alors je mets en note, hein, ce n'est pas un terme péjoratif, au contraire, hein, je vous laisse lire la note. Donc on y voit encore plusieurs belles agates onyx antiques, de la pierre et de la toile d'amiante qu'on jette dans le feu pour la blanchir, diverses machines pour le mouvement perpétuel, l'une desquelles est composée d'une balle de plomb qui, après être descendue très longtemps d'une longue spirale, tombe dans un canon de pistolet qui, au moyen d'un ressort comprimé par la chute de la balle, la tire contre un dôme incliné qui la fait rejaillir dans un entonnoir, d'où elle coule sur la ligne spirale et toujours de même. Un plat bassin d'ambre jaune, large de 2 pieds et fort mince, des morceaux de momie d'Égypte, des idoles, des diptyques, sans parler des basiliques longs de 5 ou 6 pieds et autres pauvretés du pays des tapisseries, non plus que d'une armoire de laquelle tout d'un coup il sort une effroyable figure de démon qui se met à rire, à tirer la langue et à cracher au nez des assistants, le tout avec un énorme bruit de chaînes et de rouages, fort propre à causer une grande épouvante aux femmes à qui souvent on l'a fait voir. Alors, nous avons choisi cet extrait car il est assez représentatif de l'attitude générale de Debrosse face au cabinet de curiosité italien. Les deux premières phrases de sa lettre témoignent d'une nostalgie et d'une déception. Nostalgie pour l'époque, désormais révolue de rayonnement et de splendeur des cabinets. On ne peut pas le nier ici, on verra ailleurs. Mais aussi une déception face à l'éparpillement des collections qui est l'une des conséquences de leur déclin. On peut lire ailleurs dans sa correspondance, toujours dans les lettres d'Italie, à propos du palais du duc de Mantoue, à Padoue, toutes les curiosités dont les cabinets étaient remplis ont été enlevées, mais il reste dans l'appartement d'excellentes peintures. Ou encore, un peu plus loin, nous ne sommes pas fortunés en cabinet, celui de Moscardo, le plus célèbre de toute l'Italie, est presque tout dissipé et nous ne pûmes voir le reste. Le maître était en campagne, n'ayant pas pu prévoir notre arrivée. Alors, par rapport au texte que j'ai lu, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence, comme caractéristique plutôt de ce texte étant donné qu'il s'insère d'abord dans une correspondance familière et aussi intellectuelle. Alors, et surtout, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme état d'esprit général du cycle dit des Lumières sur les cabinets ? Alors, le premier objectif de ce rapport de visite est d'abord d'offrir à son correspondant, voire à ses correspondants multiples, une description rapide du cabinet de cet état-là, sans l'ennuyer. Tout voyageur lettré qui passe par Milan se doit d'aller voir ce cabinet, c'est un passage obligé, on en a parlé ce matin avec Charles Patin. Il s'agit donc d'une relation contrainte et forcée, dans un certain sens, puisque Charles Debrosse nous dit qu'elle constitue un choix par défaut, ou du moins qui n'était pas prioritaire, puisqu'il aurait préféré voir le cabinet du comte Mezzabarba. Donc, selon lui, ça aurait été ce qu'il y aurait de plus curieux à voir à Milan, réputé pour ses médailles antiques notamment. La deuxième caractéristique de ce rapport de visite est de proposer une vision en raccourci, très, très dense effectivement, avec des longues phrases du cabinet, qui doit tenir compte des relations antérieures. J'en ai parlé un petit peu avant quand j'ai présenté le chanoine. Elle doit se positionner par rapport à ces dernières, les juger, mais aussi apporter des informations nouvelles et originales. D'où une sélection. Charles Debrosse ne décrit pas tout, seulement les éléments qui l'intéressent et qui aussi sont susceptibles de passionner son correspondant qu'il connaît. La brièveté du commentaire, la sécheresse de l'analyse prouvent sa déception. Il regrette qu'une partie des raretés qui faisait la renommée du cabinet ait été donnée ou vendue. Il ne peut que constater l'éclatement du cabinet en parlant de fragments. On a vraiment les fragments d'une totalité qui est disparue. Plusieurs belles agates onyx, antiques, etc. Là où il y avait unité dans la juxtaposition, il n'y a maintenant que l'éparpillement. Ce qui retient cependant son attention, ce sont les machines pour le mouvement perpétuel qui assurait la renommée de ce chanoine. Et la description précise que nous livre Charles Debrosse de l'une de ces machines montre que la quête de la merveille s'est déplacée. Faute de rareté et d'étrangeté à la manière des cabinets du XVIIe, l'émerveillement du locuteur se focalise sur des mécanismes à ressort, c'est-à-dire sur des machines fabriquées par l'homme et non des singularités trouvées dans la nature. Cependant, comme le note Horst Bredekamp dans son ouvrage « La nostalgie de l'antique », la figure de l'automate a toujours eu sa place dans les cabinets de curiosité, traduisant le rêve d'imiter la vie en suggérant le mouvement. La troisième caractéristique serait de délivrer un discours à la fois ironique et critique pour condamner la superstition. C'est un des points communs avec le texte de Casanova que je lirai ensuite, puisque Charles Debrosse, on le voit clairement, n'a que faire des objets qui reflètent la crédulité humaine et renvoient à un état d'esprit jugé archaïque, comme les idoles, les momies d'Égypte. J'ai parlé de la tournure dépréciative, péjorative et autres pauvretés du pays des tapisseries, ainsi qu'à Dragon qui laisse voir ses rouages, donc finalement qui est complètement démystifié, puisqu'on n'en a plus peur et qu'il ne sert qu'à faire peur aux femmes qui sont censées être des esprits plus crédules que les hommes. Bref, c'est un autre débat. En tout cas, on voit qu'il y a une critique très nette de la croyance naïve. Bon. On voit donc ici un phénomène qui a été décrit par Dominique Monconduite dans l'ouvrage qui a été cité ce matin, les premiers actes du colloque en 2001, je crois. Voilà. Les représentations picturales des cabinets, finalement, fonctionnent un petit peu comme ces rapports de visite, ou ce rapport de visite que j'ai lu. C'est qu'ils en donnent une idée, ils donnent une idée de ce que pourrait comporter le cabinet sans s'être représenté, de ce qu'il devrait réunir pour atteindre la complétude à laquelle il tend. Tout cabinet, je continue la citation, n'est que la projection, l'inscription dans le réel d'un rêve de saisie de la création. C'est pourquoi l'on peut y réunir, à défaut d'originaux, des signes de ce qu'on souhaiterait posséder, de ce qu'il conviendrait de posséder. Et dans ces conditions, je finis la citation, la représentation du cabinet s'avère toujours sujette à caution. Sans doute représente-t-elle moins la collection réelle elle-même que l'idée qu'on veut en transmettre aux personnes potentiellement intéressées. Donc là, effectivement, ça fonctionne de cette manière. Il a été évoqué aussi tout à l'heure le catalogue idéal. Là, c'est un petit peu la représentation idéale qui se confronte à la réalité décevante de l'éparpillement. Donc la vision du monde que Charles de Brosse transmet à son correspondant à travers cette description n'est pas innocente. Elle ne répond pas qu'à une demande d'exotisme. Hein, c'est un petit peu l'enjeu du grand tour, c'est sûr. Mais elle ne consiste pas seulement à exercer une fascination sur son interlocuteur, mais elle cherche aussi à lui transmettre un jugement critique, hein, typique des Lumières, on a dit, par rapport à la superstition, et à développer des idées personnelles. Ainsi, le voyage en Italie sert de support à une argumentation, de véhicule à une sorte d'idéologie, si on veut, avec cette critique de la superstition, et qui sera l'un des dominateurs communs de beaucoup de voyages d'amateurs éclairés au siècle des Lumières. Et pour finir sur Charles de Brosse, dans une autre lettre, il s'en prend d'ailleurs explicitement à la religion, puisqu'il dit « Je ne veux pas parler d'un tableau de cette chapelle où un âne renifle ceux de l'avoine pour se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Laissons ces pauvretés et n'achevons point. Il est indigne de voir combien la misérable superstition scandalise la religion par ses momeries. » Bon, là, on n'a évidemment pas d'ambiguïté possible. Et ce rapport entre la superstition et le cabinet de curiosité, tel qu'il s'illustre, à mon sens, entre une oscillation constante entre scepticisme et crédulité, est caractéristique des Lumières, même s'il comporte plusieurs degrés. Là, on a vu un degré de fermeté par rapport à la superstition. Et j'ai choisi Casanova donc, comme second texte pour illustrer, à mon avis, une ambiguïté plus fondamentale du siècle des Lumières, puisque Casanova condamne la superstition, mais il ne le fait pas toujours explicitement, et surtout, ce qui le distingue du voyageur qu'on a vu ce matin de Monconis, quand on a parlé justement, quand vous avez parlé de déniaisement, Casanova déniaise ses lecteurs ou disons les gens à qui il s'adresse, mais en même temps, il escroque ce qu'il veut duper. Alors, on va avoir un exemple ici de jeu avec la superstition, justement, un jeu entre le dupeur et le dupé. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de faire une biographie de Casanova trop longue, parce que bon, c'est un personnage assez connu. Je mentionnerai quand même, parce qu'on ne le sait pas toujours, qu'il a écrit ses mémoires en français, hein, bien qu'évidemment né à Venise, et que c'est vraiment un ouvrage, à mon avis, je travaille dessus, mais qui est à mon avis un ouvrage très important du XVIIIe siècle. Il s'est fait naturaliser français, on ne le sait pas toujours non plus. Il se faisait d'ailleurs appeler, pour paraître plus français, chevalier de Saint-Gall, hein, pour paraître noble. Alors qu'évidemment, il est d'origine modeste, enfin disons, il est fils de comédien. Alors, il a été séducteur toute sa vie, il a aussi été kabbaliste, surtout polygraphe, on le sait moins, il a écrit plusieurs ouvrages, notamment des dialogues philosophiques, qui sont assez intéressants, un discours sur le suicide, bon, je passe, et un escroc notoire, comparable à Cagliostro ou au comte de Saint-Germain, avec lesquels d'ailleurs il souhaite se comparer, notamment dans un traité. Alors, rapidement, je lis le passage. Dans cet extrait que vous avez sous les yeux, Casanova se trouve à Mantoue, où il passe une grande partie de son temps à l'opéra. Alors, justement, il fait une rencontre assez extraordinaire. À l'opéra, je me suis vue abordée par un jeune homme qui, de but en blanc, me dit que j'avais tort, étant étranger, de n'être pas allé voir le cabinet d'histoire naturelle de son père, Antonio de Capitani, commissaire et président au canon. Je lui réponds que s'il avait la bonté de venir me prendre à l'auberge de Saint-Marc, je réparerais ma faute, je finirais d'avoir tort. Dans ce commissaire du canon, j'ai trouvé un original des plus bizarres. Les raretés de son cabinet consistaient dans la généalogie de sa famille, dans des livres de magie, dans des reliques de saints, dans des monnaies antidéluviennes, dans un modèle de l'arche de Noé, dans plusieurs médailles, dont une, était de Sésostris et une autre de Sémiramis, et dans un vieux couteau d'une forme baroque, tout rongé par la rouille. Ce qu'il tenait sous clé était l'attirail de la franc-maçonnerie. « Dites-moi, lui dis-je, ce qu'il y a de commun entre l'histoire naturelle et ce cabinet, car je ne vois rien de ce qui regarde les trois règnes. Vous ne voyez donc pas le règne antédiluvien, celui de Sésostris et l'autre de Sémiramis ?» À cette réponse, je l'embrasse. Et pour lors, il déploie son érudition sur tout ce qu'il avait, finissant par me dire que le couteau rouillé était celui avec lequel Saint-Pierre avait coupé l'oreille à Malc. Alors, je vous ai mis une note à propos de Malcus en bas. « Vous possédez ce couteau et vous n'êtes pas richissime ?» Comment pourrais-je être riche moyennant ce couteau? De deux façons. La première, vous mettant en possession de tous les trésors qui se trouvent cachés dans les terres et qui appartiennent à l'Église. C'est naturel, car Saint-Pierre en a les clés. Dieu soit loué. La seconde, le vendant au pape même, si vous avez les chirographes qui en attestent l'authenticité. Vous voulez dire la pancarte. Sans cela, je ne l'aurais pas acheté. J'ai tout cela. Tant mieux. Le pape, pour avoir ce couteau, ferait, j'en suis sûr, votre fils cardinal, mais il voudrait avoir aussi la gaine. Je ne l'ai pas, mais elle n'est pas nécessaire. En tout cas, j'en ferai faire une. Il faut avoir celle dans laquelle Saint-Pierre mit lui-même le couteau quand Dieu lui a dit « Mite gladium tuum in vaginam ». Elle existe et elle est entre les mains de quelqu'un qui pourra vous la vendre à bon marché. Bon, évidemment, cette personne, c'est bien entendu lui-même, hein, qui va imaginer, donc je vous passe l'anecdote, mais enfin, il va imaginer la façon dont on va confectionner la gaine afin de l'auréoler d'un pouvoir magique, hein, superstitieux, avec lequel il va pouvoir escroquer l'être crédule qui est en face de lui. Alors, il y a plusieurs anecdotes comme ça dans les mémoires. Alors, pourquoi j'ai retenu ce passage pour plusieurs raisons. Donc, on a affaire ici à un rapport de visite extrêmement ironique d'un cabinet de curiosité entièrement porté sur la superstition, ainsi que sur des reliques religieuses, et qui ne répond pas aux critères en vigueur, en tout cas à ce qu'on attendrait au siècle des Lumières, comme le remarque Casanova lui-même. Dites-moi ce qu'il y a de commun entre l'histoire naturelle et ce cabinet, car je ne vois rien de ce qui regarde les trois règnes. Il s'agit évidemment des règnes végétal, animal et minéral. Et la réponse qui lui est faite prête à rire et amuse tellement Casanova qu'elle va l'inciter à escroquer justement son interlocuteur, dont l'érudition, c'est vraiment ici ironique, ne repose que sur des extravagances et des chimères. La description de ce cabinet et le dialogue qui s'ensuit reflètent une autre dimension des Lumières, la persistance d'un esprit de superstition, très éloigné du progrès de la science. Alors, de quoi est-il question ? Principalement d'une collection de reliques que le regard de Casanova nous encourage à décrypter et à considérer comme fantaisistes. Alors, monnaie antédiluvienne, arche de Noé, etc., hein, médaille comportant l'image de Sémiramis. Tout cela renvoie à la Bible et plus particulièrement à l'Ancien Testament, mais sans aucune rigueur. Tout est mélangé. On ne voit pas pourquoi tous ces objets sont réunis. Je ne vous ai pas... Je ne vais pas vous décrire exactement les références, mais en tous les cas, c'est une sorte de mélange, hein, quelque chose de pas du tout rigoureux. Alors, en fait, ici, la légende se mêle à la réalité, la fiction à l'histoire. Rien ne peut être établi avec certitude. Or, cette confusion est précisément celle sur laquelle se fondent les reliques, hein, comme l'a rappelé Lougli dans son ouvrage sur les cabinets de curiosité. Je cite, « Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le moment où l'on commence à faire dans ce domaine une distinction d'origine illuministe, on trouve dans les églises des matériaux en apparence normaux sur lesquels on opère une transformation en les projetant avec force dans une situation imaginaire. C'est ainsi qu'un éclat de granit ordinaire devient une relique de la colonne de la flagellation du Christ, qu'un couteau damasquiné de facture orientale finit par s'identifier à l'arme dont Saint-Pierre se servit pour couper l'oreille de Malchus. » Donc j'ai retrouvé cette citation qui finalement illustre bien notre passage. Et on peut préciser aussi que ces deux objets font partie du trésor de Saint-Marc à Venise. Le poignard au manche damasquiné a été muni d'un support d'argent à l'époque baroque et on le trouve dans le trésor à partir du XVIe siècle. D'abord comme arme de Saint-Pierre, puis, d'après l'inventaire de 1697, comme couteau de la dernière scène. Alors, dans un tel contexte, l'ironie de Casanova est évidente puisqu'il décrit de manière péjorative le couteau du commissaire du canon comme étant vieux et de surcroît tout rongé par la rouille, afin de mieux faire ressortir l'écart entre le couteau réel et celui que l'être crédule s'imagine ou qu'il croit posséder. Le phénomène ainsi mis en avant par Casanova relève de la démystification et illustre le principe qui veut que le miracle est dans les yeux de celui qui regarde et non dans la chose elle-même, regardée. Alors, tout en nous prouvant que tout peut être objet de manipulation et d'invention, Casanova cherche à exploiter la crédulité de son interlocuteur. Il invente lui-même une relique, hein, sur le champ immédiatement, tellement son esprit est vif. Et en somme, le Vénitien nous livre une sorte d'anecdote à valeur morale, censée illustrer la crédulité humaine. Mais lui, Casanova, va s'en servir paradoxalement pour récupérer de l'argent. Bon. Dans d'autres épisodes, il cherche à nous montrer que malgré un fond superstitieux, il n'est jamais dupé, mais toujours dupeur. Alors, notamment dans son voyage en Espagne, il nous dit, à un moment donné à Tolède, on nous montra un dragon disséqué, ce qui prouve, me dit le propriétaire, que le dragon n'est pas un animal fabuleux. Et après, le dragon nous fit voir le basilic, dont les yeux, au lieu de nous épouvanter, nous firent rire. On nous montra un tablier de franc-maçon en nous assurant que celui qui en avait fait présent à son père avait été dans la loge. Alors, l'opposition du « on » et du « nous » est emblématique de cette ligne de démarcation que Casanova veut tracer entre l'imposteur et la dupe. Le dragon disséqué et le basilic qui fait rire ne sont plus des objets fascinants, hein. Ça nous renvoie à de brosses, mais détaché du contexte global des cabinets, deviennent parodiques. Ils ne font sens que comme pièces détachées, ersatz d'un ordre ancien où la merveille était une méthode de travail. Je cite encore l'oubli rapidement. Déjà, par rapport au trésor des églises médiévales, les monstres étaient descendus d'une position élevée, menaçante, au pinacle de la nef, pour entrer dans les rayons de la Wunderkammer. Se confrontant entre eux, le crocodile avec la côte de la baleine, avec la main gigantesque ou la pierre de météore. Les cimes du miraculeux médiéval, incontrôlés, sont lentement devenus des objets d'études et de comparaisons, mesurés et anatomisés. Chez Casanova, l'attrait pour la merveille n'a pas disparu, mais s'est déplacé. La merveille devant être recherchée non pas dans un cabinet, forme jugée par lui, en tout cas archaïque ou trop figée, mais dans la vie même, ce qui passe par l'expérimentation et l'escroquerie, hein, donc après, chacun peut juger de cette solution, y compris alchimique, hein, c'est là que je voudrais finir avec cet épisode, comme nous le montre sa collaboration avec l'invraisemblable marquise d'Urfé. Donc marquise, on dit les questions à plusieurs reprises dans l'histoire de ma vie. Elle me fit voir sa bibliothèque, qui avait appartenu au grand d'Urfé et René de Savoie, sa femme, qu'elle avait augmentée de manuscrits qui lui coûtaient plus de 100 000 francs. Son auteur favori était Paracelse, qui, selon elle, n'avait été ni homme ni femme et qui avait eu le malheur de s'empoisonner avec une trop forte dose de médecine universelle. Alors, ça donnera lieu à toute une suite d'escroqueries avec Madame d'Urfé. Bon, je ne veux pas vous raconter les détails, simplement qui manifeste aussi un esprit de superstition qu'encore une fois Casanova va exploiter. Hein. Il décrit longuement sa bibliothèque alchimique, son laboratoire même, où elle croit se régénérer en esprit. Bon. Donc, j'en ai pas parlé ici parce qu'il ne me semble pas convenir vraiment à un véritable cabinet de curiosité, mais si on le prend dans un sens très très large, on peut éventuellement en faire partie à la marge. Alors, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Bon. Non, mais... Donc, la critique de la superstition et de la crédulité n'aboutit pas toujours à l'éloge de l'imposture, heureusement, et de l'escroquerie. Elle peut prendre d'autres chemins, comme la mise en cause d'une certaine forme d'érudition jugée par certains bornée ou une ironie bordante envers la figure de l'antiquaire. Donc, je voudrais finir là-dessus cet exposé. Donc, sur la figure de l'antiquaire chez Montesquieu dans les lettres persanes, donc qui est évidemment une lettre fictive. Alors, je la lis aussi. Donc, voici une lettre que je reçus hier d'un savant, elle te paraîtra singulière. Monsieur, il y a 6 mois que j'ai recueilli la succession d'un oncle très riche qui m'a laissé 500 ou 600 000 livres et une maison superbement meublée. Il y a plaisir d'avoir du bien lorsqu'on en sait faire un bon usage. Je n'ai point d'ambition ni de goût pour les plaisirs. Je suis presque toujours enfermée dans un cabinet où je mène la vie d'un savant. C'est dans ce lieu que l'on trouve un curieux amateur de la vénérable antiquité. Lorsque mon oncle eut fermé les yeux, j'aurais fort souhaité de le faire enterrer avec les cérémonies observées par les anciens Grecs et Romains. Mais je n'avais pour lors ni la crématoire, ni urne, ni lampe antique. Mais depuis, je me suis bien pourvue de ces précieuses raretés. Il y a quelques jours que je vendus ma vaisselle d'argent pour acheter une lampe de terre qui avait servi à un philosophe stoïcien. Je me suis défait de toutes les glaces dont mon oncle avait couvert presque tous les murs de ses appartements pour avoir un petit miroir un peu fêlé qui fut autrefois à l'usage de Virgile. Je suis charmée d'y voir ma figure représentée au lieu de celle du signe de Mantoue. Ce n'est pas tout. J'ai acheté 100 louis d'or, 5 ou 6 pièces d'une monnaie de cuivre qui avait cours il y a 2000 ans. Je ne sache pas avoir à présent dans ma maison un seul meuble qui n'ait été fait avant la décadence de l'Empire. J'ai un petit cabinet de manuscrits fort précieux et fort cher. Quoique je me tue la vie à les lire, j'aime beaucoup mieux m'en servir que des exemplaires imprimés qui ne sont pas si corrects et que tout le monde a entre les mains. Quoique je ne sorte jamais, je ne laisse pas d'avoir une passion démesurée de connaître tous les anciens chemins qui étaient du temps des Romains. Alors, je vous ai mis les notes de l'édition des œuvres complètes. Hein. C'est une lettre évidemment très amusante et ironique. C'est une critique de l'antiquaire qui se croit savant, mais c'est fait de telle manière que c'est le prétendu savant qui, en se décrivant et en explicitant tout ce qu'il fait, se dévalorise lui-même finalement aux yeux du lecteur. Donc l'usage de l'ironie, comme je viens de le dire, est présent absolument partout. Et cela rappelle, hein, comme aussi vous l'avez dit dans les précédents actes du colloque que vous aviez fait, la critique du curieux par la bruyère, hein, c'est très connu dans le chapitre de la mode des caractères. Bon, je ne vais pas rappeler ici parce que ça serait trop long. Cependant, en fait, en faisant des recherches inopinées, enfin, hasardeuses, j'ai trouvé que la véritable source de Montesquieu est dans Malebranche, dans De la recherche de la vérité, livre 4, chapitre 7, où en fait il se livre à une critique du faux savant. Donc évidemment, il y a un intertexte avec la Bruyère dans toutes les lettres persanes. L'un des maîtres, si on veut, de Montesquieu, hein, qui s'est formé avec ses lectures, ses livres, c'est Malebranche. Donc c'est le faux savant. Quelles sont les caractéristiques de ce faux savant mis en avant par Montesquieu? D'abord, c'est le règne de l'avoir sur l'être. En effet, le rapport à la connaissance et à l'antiquité ne passe pas par l'étude de la contemplation, par l'étude ou par la contemplation, mais par le fait de posséder un objet. J'aurais fort souhaité de le faire enterrer avec les cérémonies observées par les anciens Grecs, etc. Or, d'une part, ce n'est pas par la réunion des objets anciens que l'on recrée les rituels funéraires antiques et qu'on ressuscite leur esprit, c'est une chimère. Et d'autre part, sans nous dire Montesquieu, il est ridicule de vouloir les recréer. Il y a un fétichisme de l'objet, hein, qui est critiqué ici. En plus, l'amateur ne s'en sert pas en raison d'une valeur pratique, mais pour sa valeur symbolique. Cet amateur a donc doublement tort. Il se trompe sur la nature de la connaissance et du savoir. Il croit connaître les anciens, alors qu'en réalité, il ne fait que collectionner leur objet ou le prétendu tel, enfin, qui leur aurait appartenu plutôt. Il prend la chasse pour la prise. Et en plus, il confond la valeur pratique donc, avec la valeur symbolique. Finalement, il vénère une copie qu'il considère comme authentique. C'est donc un faux savant doublé d'un être crédule. Hein, on retrouve encore cette critique de la crédulité. Et d'ailleurs, c'est une réalité. Hein, encore au XVIIIe siècle, vous savez que beaucoup d'intellectuels, Montesquieu lui-même d'ailleurs, avait des livres et des collections de médailles. Donc c'était très important. On collectionnait encore les statuettes, les vases, les objets de culte appartenant à liés à l'Antiquité. Et comme le dit d'ailleurs aussi Antoine Schnapper, la curiosité des antiquaires manifeste cette même empreinte de l'Antiquité romaine. C'est la civilisation romaine dans laquelle ils baignent qui mobilise l'essentiel de leur activité. Les vestiges de ce monde disparu, auquel malgré les efforts de Perrault et des modernes, on a codé généralement la supériorité sur le nôtre, sont pieusement recueillis et commentés. Donc il y a une tension hein, qui est reflétée notamment cette fameuse querelle des anciens et des modernes. L'autre caractéristique de ce faux savant est l'amour propre. L'amateur souhaite se distinguer du reste des hommes en ayant, par exemple, à sa disposition des manuscrits que tout le monde ne peut pas avoir entre les mains. Il en est content, il s'en vante, il se glorifie de ça. Troisième caractéristique, qui me semble être aussi un trait qu'on retrouve dans des textes anglais, comme par exemple chez Thomas Brown, dans Pseudodoxia Epidemica, c'est véritablement la vénération, l'idolâtrie même pour les anciens. Hein, Thomas Brown écrit « se prosterner, délibérément devant l'Antiquité » n'est pas non plus l'unique et puissant ennemi de la connaissance. Il convient d'y ajouter la révérence aveugle envers l'autorité ou le renoncement à notre jugement devant le témoignage de n'importe quelle époque ou de n'importe quel auteur. Quatrième caractéristique plutôt de cet amateur ou de ce faux savant, c'est de vouloir vivre dans le passé en adoptant des lois, des mœurs et des manières qui n'existent plus et qui sont en décalage avec le présent. En réalité, il découle de tout cela une cinquième et dernière caractéristique qui est la séparation radicale entre l'étude et l'action, entre la pensée et la vie. Effectivement, l'amateur reste renfermé dans son cabinet. On nous a dit qu'il étudie la cartographie des anciens alors qu'il ne connaît même pas sa propre région. Je vais essayer de finir rapidement.
Merci.
Non, mais c'est normal. Donc, je vais passer un petit peu vite ici. Voilà, donc ce que je voulais illustrer ici, c'était l'opposition du XVIIIe siècle entre ce qu'on a pu appeler l'antiquaire et le philosophe, hein, avec des positions un petit peu parfois caricaturales ou en tout cas très marquées, qu'on va retrouver chez Voltaire par rapport à Maffei, aux amateurs d'antiquité en général, qui préfèrent justement collectionner les vieilles médailles dans les cabinets plutôt que s'intéresser à la véritable monnaie qui circule au commerce des hommes. On retrouve aussi cette opposition, hein, je passe rapidement, entre Diderot et l'antiquaire Caylus, qui est né en 1692 et mort en 1765. Il dresse d'ailleurs une épitaphe ironique, évidemment, à l'égard de Caylus. Donc je vous cite, c'est dans une lettre à Sophie Volant. « Avez-vous eu connaissance d'une épitaphe du comte de Caylus, hein, en réalité c'est Diderot qui l'a écrite, faite en deux vers aussi durs que le caractère de l'homme. Sigit un antiquaire acariâtre et brusque. Ah, qu'il est bien logé dans cette cruche étrusque. » Donc, ici, On voit que ce qui est critiqué, c'est la pédanterie de Caylus. Hein. En réalité, si on s'intéresse un petit peu plus à ce personnage, notamment dans un livre qui s'appelle La fascination de l'antique, qui parle d'une exposition qui a eu lieu à Lyon il y a quelques années, on voit que ce personnage n'était pas si caricatural que ça, puisqu'il il est lié aussi à des découvertes en archéologie, etc. Mais ce que je voulais montrer ici, dans cet exemple de Montesquieu puis de Diderot, hein, que je n'ai pas le temps de développer, c'est une opposition marquée, hein, idéologique, presque caricaturale, entre des positions, alors que dans la réalité, c'est plus nuancé. C'est un petit peu ça, ce qui se passe au siècle des Lumières. Alors, rapidement, Diderot, ce qu'il cherche à faire, c'est établir une distinction pour dévaloriser Caylus, hein, surtout ce qu'il nie, c'est tout privilège accordé à la priorité temporelle, l'attribution aux anciens de la valeur d'exemple à suivre parce qu'ils ont été les premiers. Il s'ensuit que pour Diderot, il faut s'inspirer non pas de l'art des anciens, mais de la belle nature, etc. Bon. Il va condamner la curiosité dans l'encyclopédie, hein, comme il a été fait mention tout à l'heure. Il va faire l'éloge des cabinets d'histoire naturelle, même si, on a discuté tout à l'heure aussi, dans l'encyclopédie, c'est parfois plus ambigu. Il y a certains articles qui ne vont pas forcément tous dans le même sens. Bon. Je n'ai pas le temps de développer ça ici. Et simplement pour terminer ma conclusion, je vous ai fait circuler donc deux peintures de reproduction de Chardin, Jean-Siméon Chardin, qui montrent le singe antiquaire et au dos le singe peintre. Et donc Diderot a beaucoup loué Chardin, hein, dans ses textes sur les salons. Et on voit bien l'opposition entre le singe qui essaye d'analyser en détail une médaille, hein, on le voit dans la première reproduction, contrairement au singe qui peint. Alors, j'ai voulu montrer dans ce sens la séparation entre le cabinet, l'antiquaire de cabinet, hein, l'antiquaire en chambre, disons, et l'antiquaire de terrain qui va examiner d'un peu plus près. Alors justement, Caylus, contrairement à ce que dit Diderot, est plus ambigu. Donc, pour finir, si la figure de l'amateur est sujette à caution au siècle des Lumières, en Angleterre, comme je l'ai dit, elle est raillée dès le début du XVIIe siècle, hein, dans certaines pièces de théâtre, et les cabinets de curiosité promis à la dispersion et à l'éparpillement, la quête d'un savoir idéal fondée sur la recherche des similitudes reste bien vivant, comme le prouve une remarque du voyage en Laponie de Linné à propos d'une plante, l'Andromède, qui s'appelle l'Andromède à feuilles de Pouliot, dont la beauté lui rappelle l'Andromède mythique. Et chez Buffon, hein, aussi, qu'on a dans son histoire naturelle, mais aussi comme personnage, on a voulu voir effectivement une sorte de mise en ordre des cabinets de curiosité. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que Horst Brandekamp a retrouvé un témoignage du 19e siècle, je finirai là-dessus, hein, véritablement, qui parle justement de Buffon en ces termes. « Par ses descriptions raffinées et pompeuses, M. le Comte a cherché à susciter dans l'aristocratie un certain dilettantisme noble dont le résultat le plus fructueux fut en réalité la multiplication des collections parisiennes. En de magnifiques phrases sonores, Buffon a décrit les animaux supérieurs, mammifères et oiseaux, leurs mœurs et leur habitat, sans ordre, sans rapport intérieur, selon que tel ou tel sujet lui semblait propre à faire briller son style. » Donc on voit bien ici, à travers cette critique, l'aspect hybride de la méthode de Buffon, qui, tout en essayant de relier l'histoire de l'humanité à l'histoire naturelle, ne se détache pas du cabinet de curiosité et de ses associations arbitraires. Donc je voulais prouver par cet exemple et par les autres que c'est la situation au XVIIIe siècle est plus compliquée que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi.
Merci beaucoup. Vous pouvez rester là avec quelques questions rapidement, peut-être pour terminer, soit Rossella Baldi sur Van Marum, soit Séverine Nogniol sur Casanova ou Montesquieu ou le président de Brosse, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des... Sinon, moi j'avais deux, trois remarques, enfin, ou questions sur De Brosse. Le terme chiffonnerie, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il. Visiblement, il n'en fait pas un usage forcément négatif, mais la citation que vous donnez, c'est bien « Je suis comme les enfants, les chiffonneries me délectent ». Donc les chiffonneries qui sont quand même liées pour lui au monde de l'enfance, à ce qui n'est pas supposément sérieux. Je ne suis pas des utilisateurs, ça faudrait regarder, mais chiffonnerie, c'est lié au monde des chiffonniers, je suppose.
Oui.
Donc, je ne sais pas comment vous l'entendez exactement.
Non, c'est qu'en fait, à plusieurs reprises dans les lettres d'Italie, il emploie ce terme de chiffonnerie pour évoquer son émerveillement, disons naïf, mais en termes positifs, c'est ça que je voulais dire. Donc peut-être la citation est mal choisie ou je me suis mal exprimée. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison qu'il y a une ambiguïté, c'est pour ça que j'ai été allée vérifier. Donc il faudrait que je regarde peut-être d'un peu plus près la définition. En tous les cas, à plusieurs reprises, il en parle en termes positifs et ce qu'il recherche vraiment dans les cabinets qu'il va visiter, c'est l'émerveillement. Et justement, il est déçu.
Alors, non, ça, c'est clair qu'il en fait un usage positif, mais qu'est-ce que c'est dans son esprit que les chiffonneries, puisque ensuite, après, il fait une liste du cabinet des états-là. Mmh. Bon, est-ce que ce n'est pas des vieilleries, si je puis dire, le monde des brocanteurs aujourd'hui? Enfin, je ne sais pas, c'est quoi exactement le mot chiffonnier pour lui, chiffonnerie? D'accord. Au fond, c'est des objets bons pour la casse, quoi. Sauf que lui, il aime ça comme les vieux jouets.
Mais c'est enfin, ça. À vérifier, c'est vrai, je ne suis
pas légitimiste, mais le mot chiffonnerie, il est quand même vraiment intéressant. Ici. Surtout pour qualifier des objets qui c'est là qui étaient vénérés en leur temps. Il en existe encore quelques-uns à Ambrogiana à Milan, plus beaucoup. Il y en a d'autres qui ont été perdus. J'avais une deuxième remarque, puisque j'ai la parole. Le terme baroque, il est intéressant chez Cananova, je vous signale. Le terme baroque, il n'est pas employé si tôt que ça dans la langue française, donc intéressant de trouver sous la plume de Casanova. Et puis, est-ce que vous avez vérifié la citation? Je ne le connais pas, mais quand Dieu lui a dit « Mite gladium tuum in vaginam », c'est dans la Bible, cette citation-là ou...
Non, je crois que c'est une invention de Casanova.
Okay. Donc, je me permettrai de vous suggérer d'en faire un autre mode de lecture aussi. Je peux traduire en français moderne, si vous voulez. Ça va être un petit peu vulgaire.
Oui.
Bref. Voilà. Enfin, c'est peut-être que j'ai un mauvais esprit, mais c'est quand même que c'est du latin de cuisine et que bon, ça se joue pas que dans la cuisine. Voilà. Bref. Non, mais là, il se moque de son interlocuteur, visiblement.
Oui,
donc,
oui. Non,
c'est à double ou triple entente, assurément.
Mais ceci dit, Casanova est un grand amateur d'Horace et de beaucoup d'auteurs latins qu'il cite. Donc, très souvent, il se trompe, par exemple, d'une lettre, etc., ou d'un mot. Et parfois, notamment là dans cet exemple, c'est sûr qu'il se moque ouvertement de...
Oui, je crois qu'il ne se trompe pas, je crois qu'il invente du latin de cuisine, parce qu'il fait de cuisine. Un latin qui fait, il sait très bien que l'autre ne comprendra pas, et voilà. Bon, alors, des questions peut-être?
Moi je crois que les tableaux de Chardin, là, il y a dans le singe, le singe peintre, il n'y a pas de l'autodérision?
Si, c'est que j'ai pas eu le temps d'en parler. En fait, c'est que j'avais prévu beaucoup de choses.
Il n'y a pas une opposition totale.
Non, c'est que je voulais dire simplement. Comme j'avais fait la photocopie, je voulais simplement illustrer par rapport à Diderot. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de commenter. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein, ça, j'en suis bien consciente.
Juste un mot à celle-là à propos de. C'est vrai que pourquoi il passe pas par balle, c'est bizarre. Là. Je me demande s'il ne faudrait pas regarder s'il n'y a pas des coups de canon par là à ce moment-là. Je ne sais plus. Hein. Non, a priori, non. Bien, merci.
Merci. J'avais une question sur, enfin une remarque, une question sur Montesquieu. C'est l'ancêtre de Bouvard et Pécuchet, hein, le monsieur qui achète tout ça, et qui sacrifie son argenterie pour des vieilleries. Ce qui est intéressant, c'est aussi le terme de savant qui est donné au départ. Voici une lettre que j'ai reçue hier d'un savant. C'est bien le moment au 18e, je crois, où on fait la différence entre trois figures de collectionneurs, le curieux, l'amateur et le connaisseur. Hein, c'est ça. Et là, le fait de dire savant pour ce qui va suivre est évidemment finalement le moment presque le plus... le plus ironique du passage. Quoi.
Oui, complètement. Oui, surtout que c'est au début, en plus. Donc, ça invite à lire la lettre d'une certaine manière.
Voilà, on s'attend à autre chose. Et puis on tombe sur... Je crois que c'est le curieux, le plus bas niveau du collectionneur. C'est celui qui n'y comprend rien, qui n'y connaît rien, qui amasse comme ça parce qu'on lui a dit qu'il fallait le faire et que c'était bien, et qui veut passer pour un noble ou pour un érudit, alors que... Bien sûr, il en est très, très loin. Voilà, c'était juste une remarque. Et puis, j'avais une question sur le voyage en Laponie. Qu'est-ce qu'il dit de la plante Andromède ?
Alors,
parce que j'ai pas saisi, en fait, c'est passé
non,
trop
non, simplement,
vite.
Non, c'est que j'ai voulu aller un petit peu trop vite à la fin. Simplement, c'était un exemple pour montrer que, dans un esprit scientifique, Linné donc, fait son voyage en Laponie. Il trouve une plante, l'Andromède à feuilles de pouliot, et ça lui rappelle l'Andromède mythique. Simplement, c'était pour illustrer le fait que on passe pas, que les frontières sont assez poreuses finalement entre la démarche scientifique et l'attachement à l'antiquité ou au mythe, etc.
C'est lui qui la nomme Andromède ?
Oui.
Ah d'accord, oui. Donc, oui, mais enfin, c'est ce qui se pratiquait déjà. Enfin, la porosité, elle est, je pense, depuis les traités scientifiques du 16e, en fait. C'est oui. Étrange même que Linné trempe encore là-dedans, non enfin,
Non, simplement, c'était pour montrer... Oui, ça, je suis bien consciente que c'était avant, mais c'est que souvent, on présente ce siècle comme, un progrès unilatéral, dans un sens unilatéral, donc il n'y a pas de retour en arrière possible, la superstation est derrière nous, on avance. C'est comme ça, souvent, qu'on... Par exemple, au lycée, c'est typique qu'on apprend ce siècle de cette manière, ça que je voulais simplement dire par rapport à l'image commune, pas par l'image qu'en ont les spécialistes.
D'accord, donc il n'en fait pas la critique. Quand il dit Andromède, pour lui, ça va.
Non, ce n'est pas une critique, oui. Mais simplement une référence que je voulais utiliser là, de manière un peu rapide, pour montrer le... Voilà, tout simplement.
Merci.
Il y a encore une question brûlante, et ce dont vous voulez, sinon on va peut-être arrêter là pour que le collègue ait le temps de faire une pause. Il n'y a pas de question brûlante. Donc, il me reste juste à vous remercier d'abord les intervenants pour leur... Merci. Donc, je remercie bien sûr les intervenants, par certains sont venus de loin, là, Anya, etc., d'être venus jusqu'à nous et de nous avoir fait partager leur curiosité, on va dire ça comme ça. Bon, merci beaucoup, et puis merci aux auditeurs fidèles jusque tard. Voilà. Et on espère qu'il y aura d'autres journées comme celle-là, il y en aura d'autres, et on certainement mettra les textes en ligne bientôt. Voilà, merci beaucoup à vous. Bonne soirée.